Éphésiens chapitre 4. Et nous pouvons lire à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle ce que nous étions autrefois et à quoi nous sommes appelés, la nouvelle vie à laquelle nous sommes appelés. Il nous rappelle les erreurs dans lesquelles nous étions. Il nous rappelle l'état spirituel dans lequel nous étions. Il nous rappelle les actes que nous commettions autrefois. Il dit que désormais, nous qui avons compris Christ, nous qui avons entendu le Seigneur, nous ne devons plus nous conformer à la vie d'autrefois, selon le vieil homme, mais nous devons marcher en nouveauté de vie, nous devons marcher conformément à la vérité que nous avons entendue, cette vérité qui est en Jésus-Christ. Il dit, les païens marchent encore comme ça. Et nous étions parmi ce nombre. Mais désormais, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de la maison, nous sommes serviteurs de Dieu et nous devons marcher selon le modèle parfait que nous avons reçu, à savoir Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 6, 40 que tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, parmi certaines choses que l'apôtre Paul va citer, il y a une particulièrement que nous allons traiter ce matin. C'est la colère. Il dit, ne vous mettez pas en colère. Et si vous êtes en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable. Alors, la colère est déjà monnaie courante parmi les hommes, mais devient aussi normale dans le milieu chrétien, devient aussi normale dans la vie même des chrétiens. On se met en colère pour des futilités. On se met en colère sans mesurer les conséquences que cette colère amènera. On se met en colère en justifiant qu'il fallait se mettre en colère, en justifiant qu'on avait raison, en justifiant que l'autre avait tort. Pourtant, la Bible nous dit que nous ne devons pas être en colère. Nous ne devons pas donner accès au diable. Il y a toutes sortes de péchés et tous les péchés ont une conséquence. Tous les péchés, si nous ne nous repentons pas, mènent en enfer. Mais de même que dans le monde, lorsque nous commettons une faute, lorsque nous trichons, en fonction de la tricherie, en fonction du problème que nous allons manifester, la condamnation sera aussi différente. Donc, en fonction de la bêtise, on jugera que tel fera une année de prison, tel payera simplement une amende, en fonction du problème. Et dans le péché, non pas qu'il y ait des grades ou bien des valeurs de péché qui ouvriront la porte au ciel ou bien qui la fermeront, tous les péchés mènent en enfer, mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences physiques, n'ont pas les mêmes conséquences dans notre corps. C'est pourquoi il y a un passage où l'apôtre Paul explique que celui qui s'attache à l'impudicité, celui qui va vers la prostituée, mais hérite aussi de toutes ces choses-là. Et dans le monde, on parlera de maladies sexuellement transmissibles. Donc, tous les péchés sont condamnables. Cependant, ils peuvent avoir des manifestations différentes dans la chair pendant notre vivant. Et la Bible nous dit que si nous nous mettons en colère, ne péchons point. La colère est un domaine dans lequel Dieu ne veut pas que l'homme entre. La manière dont nous avons été créés. À la base, la Bible dit que tout était bon. Voici, le péché est venu nous polluer et nous avons hérité d'Adam une nature pécheresse. Et cette nature, bien que nous avons été créés de nouveau, qui demeure dans la chair, n'a pas été régénérée. La chair demeure avec ses faiblesses, la chair demeure avec ses propres désirs. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc tout homme aujourd'hui qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu aura la tendance à pécher, aura la tendance à satisfaire la chair. Ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin de méditer. On n'a pas besoin de réfléchir pour savoir comment pécher. On n'a pas besoin d'apprendre un enfant pour savoir comment faire le mal. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant comment mentir. Puisque toutes ces choses sont dans notre chair, si nous, nous ne marchons pas selon l'Esprit Saint, c'est tout ce qui est dans la chair qui cherchera à se manifester automatiquement. Puisque la chair n'a pas été régénérée. Lorsqu'on met un poisson dans l'eau, on sait qu'il nagera et qu'il vivra bien dans l'eau. Il ne se posera pas de questions pour se demander « est-ce que je dois vivre autrement ?» Il a été créé pour vivre dans l'eau et cela va se manifester automatiquement. Aucun d'entre nous ne peut avoir la prétention de dire que si mon enfant marche, c'est grâce à moi. Nous avons été créés et dans le processus de croissance, viendra un temps où la croissance, où la marche se fera automatiquement. C'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui est logique. Et lorsque nous marchons selon la chair, eh bien logiquement les désirs de la chair se manifesteront. Nous n'avons pas besoin de pousser, nous n'avons pas besoin de provoquer la chair, mais d'elle-même, elle cherchera à se manifester et à s'affirmer. Donc la manifestation par la colère est une manifestation propre, une démonstration propre de notre chair qui cherche à exister, qui cherche à s'imposer, qui cherche à s'affirmer. Lorsque les hommes se mettent en colère, c'est parce qu'il peut y avoir des déceptions. C'est parce qu'il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des contradictions. Alors, pour ne pas discuter, pour ne pas laisser raison à l'autre, on manifeste notre mécontentement par la colère. On manifeste notre désaccord par la colère. Or, la Bible nous demande que lorsque nous sommes en colère, nous ne devons point pécher. Ce qui veut dire que bien que nous sommes nés de nouveau, la Bible n'exclut pas le fait que la colère est en nous, que la colère est propre à la chair et qu'elle est prête à se manifester à tout moment. Mais on nous donne le conseil que lorsque nous sentons que la colère est là, de ne point pécher, autrement dit, de ne rien faire. Nous voyons aujourd'hui toutes les conséquences de la colère. Nous voyons aujourd'hui les meurtres qui se sont commis. Combien de fois ça nous est arrivé d'injurier une personne, simplement sous l'effet de la colère, et quelques instants après, on regrette. Ce qui vient de Dieu produit la vie. Et ce qui produit la vie n'est pas regrettable. Mais ce que nous regrettons, c'est ce qui est condamnable. Ce que nous regrettons, c'est ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Combien de fois nous avons prononcé des paroles que nous n'avons pas pensées, simplement parce que nous avons agi sous la colère. Or, le Seigneur nous dit que si la colère est là, ne péchez pas. Il est écrit dans le psaume 4, à partir du verset 5. Psaume 4, verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voilà le conseil que la Bible nous donne. Lorsque la colère est là, reste sur ta couche, reste sur ton lit. La douleur est là. La colère est là, mais que ça reste une colère intérieure. Que cette colère ne t'amène pas à poser des actes que tu regretteras un jour. Il dit, parlez en vos cœurs. Non pas que le Seigneur accepte la colère, mais il tolère le fait que la colère soit là sans que nous puissions manifester des actes, sans que nous puissions prononcer des propos qui seraient injurieux, des propos qui iront à l'encontre même de Dieu. Il dit, garde cette chose dans ton cœur. Et lorsque nous lisons Galates 5, 22, parmi les vertus de la nature de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, il nous est demandé de faire preuve de maîtrise de soi. Or, lorsque une personne cherche à se maîtriser, ce n'est pas toujours simple. C'est dur quelquefois. Il y a une souffrance intérieure. Mais la Bible nous dit, mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, que de souffrir en faisant le mal. Si cette souffrance est liée à la maîtrise, du refus de tomber dans le péché de la colère, alors c'est une souffrance qui est salutaire. C'est une souffrance qui est bonne, c'est une souffrance que nous devons accepter. Malheureusement, l'homme n'aime pas souffrir. L'homme n'aime pas la souffrance. L'homme refuse la souffrance. L'homme a peur de la souffrance. Alors puisqu'il refuse la souffrance, il décide de s'exprimer. Mais s'exprimer en temps de souffrance manifestera la colère. La souffrance fait partie du serviteur de Dieu. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, le serviteur fidèle à Dieu, le modèle que nous avons reçu, Jésus-Christ, homme de douleur habitué à la souffrance. J'ai dit tout à l'heure que la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Voici notre maître était un homme de douleur habitué à la souffrance. Pensons-nous, bien-aimés, que les occasions que le Seigneur avait lorsqu'il était sur terre de s'énerver, de s'emporter, devaient manquer. À chaque jour qu'il vivait, à chaque jour, il y avait des occasions de s'emporter. Mais c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était venu non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Ne péchez point. Parle dans ton cœur, contiens cette colère et reste allongé, reste couché, reste sur ta couche, la Bible nous dit, et offre des sacrifices à Dieu. La colère emmène des conséquences qui sont regrettables, emmène des conséquences quelquefois qui sont irréparables. Nous avons vu dernièrement aux informations deux collégiens qui se sont battus dans les couloirs de leur école, et l'autre, emporté par la colère, a sorti une arme blanche et a poignardé l'élève. Aussitôt, il a regretté, aussitôt, il a manifesté que ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Il ne voulait pas en arriver à là. Mais voici, il n'a pas su contenir sa colère et le mal a été fait. Mais ce mal ne peut plus être réparé. Combien de fois, bien-aimés, nous avons détruit de nos propres mains ce que nous avons construit? Combien sur des coups de colère, nous avons effacé ce que nous avions écrit? Combien sur des coups de colère, nous avons fait du mal? Et bien souvent, nous avons regretté. Il y a premièrement la souffrance liée à la colère, et encore après nous subissons la souffrance liée au regret, liée à la culpabilité. Ce qui est de Dieu produit la vie. Si la colère produisait la vie, bien-aimée, ça se serait. Et le Seigneur nous l'aurait dit. Il nous l'aurait même conseillé. Mais si le Seigneur nous déconseille de nous emporter, si le Seigneur nous déconseille de nous mettre en colère, c'est parce que les conséquences sont dramatiques. Bien-aimée, je le dis parce que c'est propre à nous tous. Certains diront, mais moi, je ne frappe pas. Moi, je ne tue pas. Il n'y a aucune colère qui puisse être justifiée. La colère ne produit pas la vie. Et c'est ce que nous vivons régulièrement, souvent dans les couples. Une petite remarque, et c'est la colère. On démarre au quart de tour, comme on dit. Est-ce que cette colère construit? La colère ne construit pas. La colère détruit. Et l'apôtre Paul nous dit qu'autrefois nous étions comme les païens. Mais désormais, nous avons changé et nous ne devons plus marcher comme autrefois. Parce que le Seigneur nous a rachetés par son sang, il a fait de nous une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, la colère n'est pas. La colère fait partie de la chair, Mais voici, nous avons reçu l'autorité même d'être au-dessus de la chair. Nous avons reçu l'autorité pour faire face à la colère et la refuser. Et cela, une fois de plus, reste un choix qui nous est propre. L'apôtre Paul nous dit, nous avons été revêtus de l'homme nouveau afin de dépouiller le vieil homme, de laisser le vieil homme se dépouiller. La Bible nous dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, que nous devons avoir ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, étant égal à Dieu. Il n'a pas fait de cette égalité une proie à arracher, mais il s'est laissé lui-même dépouiller. Il s'est laissé lui-même dépouiller pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite dans sa vie. Nous avons là le modèle parfait. Bien-aimés, nous pouvons chercher à faire des exercices de respiration, à prendre des positions de yoga, parce que ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est de faire le choix de vivre selon la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Selon la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Combien de fois nous avons été étonnés de voir des hommes qui paraissaient totalement calmes et apprendre que tel homme a commis telle bêtise, que tel homme a fait ceci ou a fait cela. On a eu du mal à croire que non, ce n'est pas cet homme qu'on connaissait. Celui qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu n'est pas à l'abri de la manifestation de la colère. Et combien même il l'a contenu pendant un temps, s'il ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, le jour où cette colère se manifestera, elle fera quelquefois beaucoup plus de dégâts que celui de qui on connaît qui s'énerve très très souvent. La colère ne doit pas faire partie du quotidien d'un enfant de Dieu. Le monde nous explique. Je lisais la définition pour avoir une idée de ce que le monde pensait de la colère. Et il explique la colère par le fait que c'est un sentiment dans lequel l'homme veut s'affirmer. C'est un sentiment dans lequel l'homme veut exister. Un sentiment qui emmène l'homme à faire du mal. La colère nous fait entrer dans un autre domaine. La colère nous donne l'impression d'être plus fort dans la violence. La colère nous fait entrer dans un milieu, dans un domaine qui n'est pas dans notre quotidien. Et il dit que ça se manifeste par des grincements de dents pour certains, par des palpitations pour d'autres. D'autres encore serrent les poings, d'autres froncent les sourcils. D'autres encore changent de couleur puisque la pression du sang augmente. Donc il y a au-dedans de nous quelque chose que nous sentons que nous ne sommes pas comme d'habitude, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les cheveux s'hérissent, les poils s'hérissent, parce qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui ne va pas. Et comme on le dirait aussi, nous sommes dans un état second. Quand on dit un état second, c'est-à-dire un autre état de la normale, dans lequel les gens nous connaissent. Alors, bien-aimé, est-ce que c'est beau de voir une personne en face de toi avec les poings serrés, avec les sourcils froncés, avec le regard crispé, avec la mâchoire serrée? Est-ce que ça, c'est agréable à voir? Si la colère produisait la vie, alors on se réjouirait de voir de telles personnes. Mais bien souvent, lorsque cette attitude est manifestée, on préfère passer. Parce que ce n'est pas agréable d'être dans la présence d'une personne qui a les yeux rouges. D'une personne, quelquefois, qui a même la salive au coin de la bouche. Est-ce que ça, c'est agréable? Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive comme un animal. Il a créé l'homme pour qu'il soit homme, à l'image du Dieu vivant, à l'image de son Fils unique. La colère ne produit rien de bon. Le Seigneur dit à ses disciples, dans Matthieu 5, à partir du verset 20, que si vous n'êtes pas plus juste que les pharisiens, si vous n'êtes pas plus juste que les scribes, si vous n'êtes pas plus juste que tous ceux-là qui connaissent la loi, qui paraissent devant les hommes, qui ont les honneurs des hommes, qui sont reconnus parmi le peuple comme étant saints, si vous n'êtes pas plus juste qu'eux, vous n'êtes pas digne de moi, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Si les païens savent que la colère n'est pas bien, si les païens comprennent que la colère n'est pas bien, Il crée même des structures pour apprendre les gens à canaliser leur colère. Alors à combien plus forte raison le chrétien le comprendra-t-il? Si ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu comprennent que la colère est mauvaise, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, pourquoi continuons-nous à demeurer dans la colère? Pourquoi continuons-nous à demeurer à manifester la colère? La colère est la manifestation même de l'orgueil de l'homme. La colère refuse la défaite. La colère refuse d'être abaissée, refuse d'être humiliée. Et elle ne produit rien du tout. Elle ne produit pas la vie. Nous sommes amenés, nous, à produire la vie. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. L'atmosphère de colère ne produit pas la paix. L'atmosphère de colère met tout le monde mal à l'aise. L'atmosphère de la colère produit la mort. Et nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu pour comprendre que la colère n'a jamais rien produit. Et nous allons comprendre que celui qui entre dans la colère entre dans un domaine dans lequel Dieu ne l'a pas invité, entre dans un domaine qui est réservé à Dieu seul. L'homme n'est pas maître de ses émotions. L'homme n'est pas capable de porter un jugement juste sans le soutien du Saint-Esprit. L'homme n'est pas capable de prendre de bonnes décisions sans le soutien du Saint-Esprit. Les gens qui jugent, les gens qui corrigent les épreuves, donnent des notes, proclament un jugement, quelquefois en fonction de leur état. S'il est de mauvaise humeur et que ce jour-là, ça tombe où il n'a pas que ça à faire, alors on passe vite les corrections. Si c'est un jour où il s'est disputé avec sa femme, il n'a pas trop envie de parlementer. Vite qu'on passe à juger l'autre affaire, parce qu'il est dépassé par ses émotions. Et ces émotions-là vont influencer son jugement, vont influencer ses décisions. Après, c'est beaucoup de regrets, mais il est déjà trop tard. Or, Dieu dit, la Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Dans le psaume 29, il est écrit que pendant les hommes se lamentaient, pendant que les hommes criaient lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Il était en paix, il était calme, il règne éternellement. Ce n'est pas ce qu'il voyait qui pouvait l'influencer dans son jugement, qui pouvait l'influencer dans ses sentiments. C'est pourquoi lui seul a cette capacité à se mettre en colère et à ne point faire le mal. À se mettre en colère et à ne point condamner l'homme. Dieu maîtrise la colère, mais nous les hommes, nous ne maîtrisons pas la colère. C'est pourquoi le Seigneur refuse que nous puissions nous mettre en colère. Parce que lorsque nous nous mettons en colère, nous faisons n'importe quoi. Nous ne faisons pas ce qui est agréable à Dieu. Lorsque nous sommes dans la colère, nous ne pouvons pas construire. Mais nous détruisons et nous détruisons même ce que nous-mêmes nous avons construit. Dernièrement, un couple a tué leur enfant. En colère contre leur enfant, un enfant peut-être de 3 ans, je crois. Pour le punir, ils l'ont mis dans la machine à laver. C'est passé aux informations. Sur un coup de colère pour punir l'enfant dans la machine à laver. Voilà où la colère mène. Bien-aimés, ces personnes ne pensaient jamais tuer leur enfant. Ce jour, quand ils se sont levés, ils ne pensaient pas tuer leur enfant. Mais parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leurs émotions. Ils n'ont pas su renoncer à la colère et ils ont commis un acte regrettable, irréparable. Non seulement ils ne verront plus leur enfant, mais ils passeront des années et des années en prison. La colère ne construit pas. Nous devons bien aimer renoncer à cette colère. Nous devons renoncer à la colère. Acceptons d'être piétinés, acceptons d'être le dernier, acceptons d'être humiliés. Renonçons à la colère. Le Seigneur dit dans Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Le Seigneur dit, « Ne rends pas le mal par le mal. Rends le mal par le bien. Et laisse Dieu exercer son propre jugement. » Il est écrit dans le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel. Recommande entre les mains de l'Éternel ton sort. » Il dit, « Ne t'irrite point contre le méchant, parce que tu feras mal. » Mais laisse le Seigneur faire les choses. Laisse le Seigneur faire les choses. Là où tu sens que tu as été traité injustement. Là où tu sens que tu as été délaissé. La tentation de la colère est là. Mais laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te justifier. La Bible dit que même le méchant rend lui le bien, car ce sont des charbons ardents qui s'amassent sur sa tête. Laisse Dieu juger, parce que le jugement de Dieu est équitable. Le jugement de Dieu est véritable. Laisse Dieu prendre position pour toi. Le Seigneur a dit à son peuple, alors que l'armée des Égyptiens le suivait, « Tenez-vous là et gardez silence. Tenez-vous là et gardez silence. » Gardons silence et laissons l'Éternel faire ce qu'il a à faire. La manifestation de la colère est le témoignage du manque de foi, du manque de confiance que nous avons envers le Seigneur. Nous nous mettons en colère parce que nous avons l'impression que dans cette affaire, Dieu ne peut rien faire. Nous nous mettons en colère parce que nous avons l'impression que dans cette affaire, Dieu ne peut pas me défendre. Je me mets en colère parce qu'il faut que je me fasse justice. Je me mets en colère parce que Dieu n'a pas entendu ma prière. La colère est le témoignage de la faiblesse. La colère est le témoignage du manque de foi, du manque de confiance que nous avons envers le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est dans le calme, dans la tranquillité que sera notre repos, notre force, dans le repos que sera notre force. C'est dans le calme, c'est dans le silence, dans la confiance en l'Éternel que sera notre force. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que je me plais dans mes faiblesses. Je me plais dans mes faiblesses parce que j'ai compris que maintenant, c'est lorsque je suis faible qu'en réalité je suis fort. Plus je suis faible, plus la puissance de Dieu sera grande. Plus je suis faible, plus la venue du Seigneur est proche. Plus je suis faible, plus l'action du Seigneur est proche. Parce qu'il est écrit qu'il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ma force. Plus le problème est grand, plus je suis prêt de tomber, plus le Seigneur est prêt d'agir, parce qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce que nous vivons, ce que Dieu permet que nous vivons, c'est que Dieu nous donne le moyen de pouvoir aussi le supporter. La chair n'a pas été régénérée, bien-aimée. Et l'apôtre Paul nous le dit, que les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impudicité, la cupidité, la magie, les querelles, les disputes, les jalousies. La Bible dit que non seulement ces choses-là, mais toutes les choses qui sont semblables, l'apôtre dit, je vous le dis qu'en vérité, toutes ces personnes-là n'hériteront pas du royaume des cieux. La chair fait partie, la colère fait partie des œuvres de la chair. Elle est en nous, bien-aimés, et si nous ne faisons pas le choix de marcher selon la parole de Dieu, elle cherchera, elle, toujours à se manifester. Nous ne pouvons pas combattre la colère avec nos propres moyens. Elle est propre à l'homme et nous ne pouvons que la combattre que si nous acceptons de marcher véritablement comme des enfants de Dieu. Personne n'est à l'écart de cela, bien-aimé. Personne n'est à l'écart de cela. Nous savons pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Lorsque le frère, la sœur de Moïse, ont murmuré contre lui parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Il ne s'est pas justifié, il n'a pas voulu combattre, il n'a pas voulu parlementer avec ses frères. La Bible nous a dit que c'était un homme fort patient. Moïse était très patient. Il a supporté le murmure du peuple dans le désert. Il a supporté le murmure de ses propres frère, parce qu'il avait reçu de Dieu la patience. Mais voici, lorsqu'il a fallu faire boire les enfants d'Israël, au travers du rocher, Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Moïse n'a pas non seulement parlé au rocher, il a dit au peuple, vous êtes un peuple rebelle. Au lieu de parler au rocher, voici, il a frappé le rocher. Moïse était irrité, était au bout, parce que le murmure du peuple était devenu trop. Pourtant, la Bible nous dit que c'était un homme fort patient. Peut-être que tu te dis que tu es patient. Peut-être que tu es connu comme étant quelqu'un de calme. Tu es connu comme étant quelqu'un de tempéré. Je ne sais pas si tu es calme au niveau de Moïse. Mais si c'est le cas, bien aimé, sache que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce que par colère, il a péché contre Dieu. Nous pouvons être reconnus comme les plus grands calmes, bien aimés. Nous ne sommes pas exclus de la manifestation de la colère si nous ne prenons point garde. Nous lisons Matthieu chapitre 5. La colère devient monnaie courante et quelquefois même un moyen de s'exprimer. Certains disent même que non, avec telle personne, il faut faire comme ça. Avec telle personne, il faut gérer les choses comme ça, sinon ils ne vont rien faire. Et surtout en Afrique, c'est monnaie courante. Les personnes qui gèrent les ouvriers disent non, dans mon pays d'origine, on dit avec le Congolais, si tu n'es pas comme ça, donc il ne fera rien du tout. Tu es obligé de faire comme ça, sinon les choses ne vont pas avancer. Il faut lui montrer que non, on n'est pas des amis. Manifeste un peu de colère, comme ça il aura peur de toi. La crainte, bien aimée, ne fait pas avancer les choses. Il est écrit dans Matthieu 5, au verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, que celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, et que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Quiconque s'énervera aura de la colère contre son frère est passible de jugement. » Nous pouvons nous justifier dans la colère, bien-aimée, mais le problème, c'est que Dieu voit la colère comme un péché. Les conséquences nous montrent les méfaits de la colère. Et pourquoi contester, puisque Dieu a déclaré que c'est un péché? Pour des hommes, certains diront que c'est normal. Mais Dieu nous dit que pour nous, c'est un péché. Lorsque Pierre a voulu contester parce que Dieu lui avait montré en vision une nappe avec des animaux, il lui a dit « Tue et mange ». Il a dit « Non, ce sont des aliments impurs ». Dieu lui a dit « Ne regarde pas impur ce que moi je déclare qui est pur. Ne regarde pas comme bien ce que Dieu déclare qui n'est pas bien. Nous n'avons pas à discuter. Puisque le Seigneur déclare que la colère est un péché, alors nous devons aussi regarder la colère comme un péché. Ne nous justifions pas, bien aimés, lorsque la colère monte. Ne nous justifions pas en disant ben, « il fallait que je fasse ainsi ». Non, acceptons simplement de nous humilier. Parce que Dieu reconnaît la colère comme un péché. Alors en tant qu'enfant de Dieu, nous devons l'accepter comme tel et comprendre que toutes ces conséquences ne mènent pas à la vie, mais mènent à la mort. Jacques, au chapitre 1er. Nous allons prendre quelques passages qui nous montrent les conséquences et ce que produit la colère. Jacques chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme soit lent à la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous pouvons quelquefois venir devant le Seigneur d'une manière irritée, en colère, parce qu'il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Voici, moi j'ai demandé, je n'ai pas eu. Seigneur, il y a un problème. Il est écrit « Cherchez et vous trouverez ». Seigneur, je me suis humilié, j'ai jeûné, mais je n'ai rien. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont des droits devant Dieu, qu'ils ont le droit d'être exaucés, que Dieu a l'obligation de donner parce qu'il a dit dans sa parole. Dieu donne selon sa volonté. Dieu donne parce qu'il le veut et non pas parce que nous avons décidé, nous. Il donne parce qu'il a choisi de nous donner. Nous nous rebellons contre Dieu. Parce qu'il est écrit, Seigneur, que dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Alors je suis en colère. parce que moi, je n'ai pas d'enfant. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons crier du matin au soir. Souvenons-nous de l'épisode lorsque le prophète Élie était devant en face des faux prophètes de Baal qui ont fait des incantations toute la journée. Ils ont crié à leur Dieu pour que le feu descende. Le feu ne s'est pas manifesté. Bien-aimés, il y a des fois où le Seigneur sera semblable à cela. Nous pouvons crier, nous agiter toute la journée et Dieu nous regardera et ne fera rien du tout. Ce n'est pas par notre colère que nous pouvons faire agir le Seigneur. Aucune colère de l'homme ne fera bouger le Seigneur, même son plus petit doigt. Ce n'est pas par nous énervant dans la prière que Dieu nous entendra plus. Ce n'est pas en criant sur les toits que le Seigneur aura plus de compassion. Nous n'avons aucun devoir. Nous n'avons aucun droit. Le droit que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir nous adresser à lui, de pouvoir lui recommander nos besoins, de pouvoir lui faire part de nos soucis. Mais le droit que Dieu a, c'est de pouvoir nous exaucer ou pas, de pouvoir nous donner ou pas. C'est quel parent qui acceptera de donner tout ce que son fils lui demande, sous prétexte que c'est son fils et que tout ce qu'il demande, il doit lui donner? C'est quel parent qui acceptera de faire cela? Le parent qui fait cela, c'est un parent qui manque de sens. Dieu ne nous a pas appelés à faire des enfants gâtés, mais à éduquer nos enfants en leur donnant ce qui est nécessaire, en leur donnant ce qui est bon pour eux et en jugeant, même si nous voulons leur faire plaisir, à quel moment il faut donner. Nous n'avons pas à répondre à toutes les demandes. Lequel parent qui acceptera qu'à chaque fois son enfant lui demande un bonbon, il lui donne? Quel parent fera cela? Un parent sensé ne fera pas cela, parce qu'il comprend que trop de sucreries, ce n'est pas bon pour l'enfant. L'enfant a le droit de venir demander, de réclamer à ses parents. Mais les parents ont le devoir et le droit de donner ou de ne pas donner en fonction de leur jugement. Voici, Dieu est aussi notre papa. Et il nous donnera en fonction de son jugement à lui. Il nous donnera en fonction de sa volonté à lui. Nous n'avons aucun droit devant Dieu. Nous n'avons le droit de rien exiger de Dieu. Nous avons le droit de demander. Nous avons libre accès à sa présence. Nous pouvons prier et tout lui demander parce qu'il nous le dit dans Philippiens 4, 6, de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de nous faire part de nos besoins par des prières, des actions de grâce, par des supplications. Dieu nous accorde cela. Et encore dans ce verset, il ne dit pas qu'il nous exaucera. Il nous répond en disant qu'il gardera notre cœur dans la paix en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute chose. Donc pour Dieu, le fait que nous soyons en paix est beaucoup plus important qu'il nous donne ce que nous avons demandé. Notre paix ne doit pas dépendre de ce que Dieu nous donne. Notre paix doit simplement dépendre du fait que Dieu est en nous, du fait que Dieu est avec nous. C'est pourquoi tous ceux qui étaient dans la prison ont continué à louer le Seigneur. Parce que leur joie ne dépendait pas de la liberté. Leur joie ne dépendait pas de ce qu'ils pouvaient manger à l'extérieur. Leur joie dépendait tout simplement du fait de savoir que là où ils sont, le maître est aussi là. Leur joie dépendait simplement de la présence du Seigneur. Ne dépendait pas de ce qu'ils pouvaient demander. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous a dit que nous avons auprès de Dieu cette assurance. Que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous avons la chose, quelle qu'elle soit, si toutefois nous demandons selon sa volonté. Alors ayons cette assurance-là, comme les héros de la foi l'ont eu. Certains même n'ont pas vu l'exaucement de leur vivant, mais la Bible dit qu'ils ont tout simplement salué de loin. Dans la foi, ils savaient que Dieu était capable de donner. Dans la foi, ils savaient que Dieu avait déjà donné. C'est pourquoi la Bible nous dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration, notre vie est la démonstration que Dieu a déjà donnée. Donc je n'ai pas besoin de m'irriter devant Dieu. Je n'ai pas besoin de m'énerver, mais je demande avec calme. Je demande dans la passion, je demande dans la joie, avec la foi que Dieu fera. Et je vais me lever et marcher comme quelqu'un qui a déjà été exaucé. La Bible nous dit que lorsque Anne a prié, elle murmurait à peine. On n'entendait pas le son de sa voix. Anne a prié parce qu'elle était stérile. La Bible dit que lorsqu'elle a fini sa prière, son visage était changé. Son visage était transformé. Elle est repartie avec cette assurance-là que Dieu avait déjà fait. Elle est partie avec cette assurance que Dieu avait déjà entendue. Alors pourquoi s'énerver? Puisque Dieu nous dit que notre colère n'accomplira pas sa justice. Tu as des problèmes avec des personnes. Tu as été attaqué la nuit pendant les sorciers. Seigneur, fais-moi justice, que Dieu frappe, que Dieu tue. Certains prient comme ça. Seigneur, venge-moi de mes ennemis, qu'ils meurent. Alors pourquoi Jésus-Christ est mort? Pour qui Jésus-Christ est mort? Il est mort pour celui qui t'embête. Il est mort pour celui qui te persécute. Il est mort pour celui qui t'attaque la nuit quand tu dors. Il est mort pour celui qui attaque tes enfants. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Notre colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Dieu ne va tuer aucun homme pour toi, bien-aimé. Il ne va tuer aucun homme pour toi, aucun homme pour quelqu'un. Dieu ne punira pas quelqu'un parce que tu lui as demandé. La Bible dit qu'un serviteur tombe ou qu'il se relève, cela appartient à son maître. Qu'un homme se tienne debout ou pas, cela appartient à son créateur. Dieu ne fera pas du mal à une autre personne parce que tu lui as demandé. Notre colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Dieu est juste et nous devons lui laisser faire son travail. Nous devons lui laisser faire son travail. Essaye un peu d'aller dire au juge ce qu'il doit faire. Pendant le jugement, dis au juge un peu ce qu'il doit faire. Madame le juge, monsieur, vous faites mal votre travail. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça qu'il faut juger. La suite risque d'être dramatique. La suite risque d'être dramatique. Déjà, nous-mêmes, nous n'acceptons pas que nos enfants viennent nous dicter ce que nous avons à faire. Papa, à mon avis, non, là, tu as mal fait, tu devrais faire comme ça. Quel parent va accepter ça? Sauf si l'enfant nous reprend par rapport à la Bible, c'est une très bonne chose. Mais dans notre manière de gérer la maison, quel parent va accepter que ses enfants viennent lui dire « Vous avez mal fait, vous avez mal géré. Il fallait prendre l'argent et faire comme ça. » Quel parent va accepter cela? Nous pouvons nous mettre en colère, bien-aimés. Dieu ne bougera pas à cause de nous. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque nous nous mettons en colère parce que nous estimons que l'épreuve est trop dure, nous nous mettons en colère parce que nous avons le sentiment d'avoir manqué de quelque chose. Bien-aimés, c'est une attaque directe à Dieu que nous faisons. La colère, c'est entrer dans le domaine de Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand on entre en colère, c'est-à-dire, on vient au niveau où on veut défier Dieu. Je manque de cela, ce n'est pas normal. Mais puisque c'est Dieu qui contrôle toutes choses, puisque c'est Dieu qui donne toutes choses, lorsque nous nous mettons en colère parce que nous manquons, nous sommes en train de dire à Dieu, « Seigneur, tu dois me donner parce que c'est comme ça. Je manque, donc tu dois me donner. » Quand nous nous mettons en colère, nous sommes en train d'accuser Dieu, de dire, « Seigneur, tu as mal géré la situation. » À cause de cette situation, regarde dans l'état dans lequel je suis. Nous sommes en train de dire que Dieu s'est trompé. Dieu a été incapable de régler le problème. Pourtant, il est écrit que Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a pas un oiseau qui tombe du ciel sans que Dieu le sache. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais voilà, Dieu a fermé l'œil un moment. Et voilà ce qui s'est passé, Seigneur, pendant que tu as failli t'endormir. Il est écrit que lui, il ne sommeille ni ne dort. Dieu voit toutes choses. Lorsque nous nous mettons en colère, nous accusons Dieu d'être un mauvais père. Nous accusons Dieu d'être un mauvais papa, d'être un mauvais Dieu. Parce que la colère est la manifestation de notre mécontentement. À qui avons-nous confié notre vie? Nous avons confié notre vie au Seigneur. Confier la vie veut dire, bien aimé, que ça ne dépend plus de nous, que nous sommes prêts à nous laisser conduire. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3:8 que nous entendons le bruit du vent. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous ne savons pas non plus où il va. Et la Bible nous dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il ne maîtrise plus sa vie, il est comme le vent. Il sent que Dieu le pousse, il sent que Dieu l'emmène dans les mouvements. Mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas où. Mais il obéit simplement parce qu'il sait que c'est Dieu qui le fait. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il ne maîtrise plus sa vie, il ne décide plus. Mais lorsque nous sommes en colère, c'est que nous sommes encore en position de force. Nous sommes encore en position où nous pouvons juger. Et ça, c'est l'orgueil bête de l'homme. Une personne qui est en prison et qui sait que il peut sortir pour bonne conduite. Il connaît son droit. Et voici, il va s'énerver. Il ne va pas respecter les autorités. Il ne va pas respecter les surveillants. Il ne va pas honorer le travail qu'on lui demande de faire. Qu'est-ce qu'on dira lorsqu'on entendra ça? Mais cet homme est bête. Il était prêt de sortir au lieu de rester calme. Voilà, il va s'emporter et se retrouver dans d'autres problèmes. Il y a des gens qui vont même encore dans la prison de la prison. Donc dans la prison, il y a encore d'autres parties où tu es encore isolé de tous les autres, dans lesquelles tu es enfermé encore. Non seulement tu es dans la prison, mais encore par le comportement, tu te trouves dans la prison même de la prison. Et c'est ainsi que nous sommes bien-aimés. Lorsque nous savons que la colère ne produira rien du tout, que nous sommes conscients de cela, alors c'est une perte de temps. Certains, ma colère, se sont cassés les mains. On était parti visiter une femme avec une sœur de l'assemblée. Et arrivé là-bas, on trouve le fils avec des béquilles et le pied dans le plâtre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'étais énervé, j'ai voulu taper contre le mur, je me suis cassé le tibia. Par un coup de colère. Mais c'est bête. C'était un geste inutile qui ne lui permet pas de travailler, qui ne lui permet pas de jouer avec ses amis. C'était un geste inutile. La colère ne produit rien du tout, bien-aimé. Proverbes chapitre 15. Le verset premier nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Nous allons, Proverbe 30, le verset 33. « Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. » Une parole dure excite la colère, mais une parole douce calme. Il y a beaucoup de situations que nous vivons au quotidien. Une petite parole, quelquefois, qui pique un peu. Mais nous avons du mal à l'accepter, nous avons du mal à l'avaler. Alors on réplique aussitôt. Et le feu s'enflamme. Et ce sont des disputes. Ceux qui sont dans le couple connaissent très bien ça. Quelque chose, peut-être que si simplement j'avais accepté de fermer ma bouche, le calme aurait demeuré à la maison. Si j'avais accepté de subir, de me laisser dépouiller comme l'apôtre Paul le dit. Les choses auraient été différentes. Et certains couples qui boudent, même, ça peut durer même des jours. Ils ne s'adressent pas la parole à partir d'un problème qui était petit. Après tout, c'est moi l'homme, c'est normal que j'élève la voix. Après tout, c'est moi l'homme, c'est normal que je dois commander. Ma femme n'a pas voulu s'humilier, donc c'est normal. Parce qu'il a refusé de s'humilier un court instant. Afin de garantir la paix dans la maison. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à l'homme que tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église? Christ est sacrifié pour l'Église, Christ est mort pour l'Église. Le Seigneur demande à l'homme de veiller sur sa femme en la lavant et en la purifiant par l'eau de la parole. La parole, ce n'est pas la colère. La parole, c'est l'exhortation, le redressement, mais dans l'amour et pour construire. Il fallait que je m'énerve pour qu'elle comprenne que c'est moi le chef ici. Et qu'est-ce que ça a produit la vie? Qu'est-ce que ça a produit? chambre à part. Qu'est-ce que ça a produit? Les pleurs des enfants. Qu'est-ce que ça a produit? La joie. Ça a produit des rires. Ça a produit la paix. Ça a produit la mort. Ce n'est pas parce que nous sommes hommes bien-aimés que nous avons le droit, nous, d'être dans la colère. Nous n'avons pas plus de droits. Les droits que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne. Et le droit que nous avons, le devoir que nous avons, c'est de faire notre part en tant qu'homme, selon les Écritures. Non pas selon les traditions. Non pas selon les conseils du grand-père. Selon le conseil du père. Il faut être dur si tu veux tenir ta maison. Si tu veux que ta femme te respecte, il faut être comme ça. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Ça ne marche pas comme ça. La colère ne produit pas la vie. Dieu nous a confié des responsabilités. Et lorsqu'on confie une responsabilité, c'est qu'on décide de faire confiance. Dieu a décidé de nous faire confiance pour pouvoir gérer une famille, gérer des enfants, avoir une femme. Dieu nous a fait confiance pour cela. Et en retour, nous devons l'honorer en appliquant sa parole. La colère ne construit pas. La colère ne se justifie pas. Bien-aimé, il ne faut pas se tromper. On peut être ferme dans une position et ne pas se mettre en colère. On peut être ferme dans notre attitude, ferme dans notre comportement par rapport à la vérité et ne pas se mettre en colère. Ne pas se mettre en colère, ça ne veut pas dire, bien-aimé, qu'on va échanger le rôle, que Dieu nous demande de devenir une femme. Dieu regarde la colère comme un péché et nous n'en sommes pas exempts. Qu'est-ce que la colère a produit? Tu as l'habitude de gérer la colère pour éduquer tes enfants. Qu'est-ce que ça a produit? J'ai connu un homme qui gérait comme ça. Aussi bien que dès que son enfant entendait quelqu'un parler fort, il avait peur. Dès qu'il entendait un peu de bruit, il courait vite se cacher en dessous le lit, se fermer dans sa chambre. Parce que l'enfant est habitué à la colère depuis son enfance. Et c'est quelque chose qui traumatise et qui détruit sa vie. C'est par la colère qu'on veut éduquer les enfants. Je parle de la colère qui est malsaine. Je ferai une parenthèse pour expliquer la colère, entre guillemets, celle que Dieu tolère. Il n'y a pas un autre mot pour employer colère. S'il y avait un autre mot, on l'utiliserait. Mais à partir de la Bible, on verra cela. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Que chacune soit soumise à son mari. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il existe un autre mot pour expliquer ça? Je crois qu'en tant qu'adulte, en tant que chrétien né de nouveau, nous pouvons comprendre en tant que femme ce que le Seigneur attend. Oui, mais, mon mari n'est pas spirituel. Je ne peux pas entendre ce que tu me dis, j'irai demander au pasteur. Puisque c'est le pasteur qui devient le chef de la maison des gens maintenant. J'entends pas ce que mon mari dit. Parce que c'est un païen. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris chrétiens, à vos maris. Païens ou pas païens. Inconvertis ou convertis. Spirituels ou pas spirituels. Femmes, soyez soumises. Qu'est-ce que la colère produit dans ta vie? Parce que ton mari t'a peut-être mal regardé. Ton mari ne t'a pas dit que ce matin tu étais belle. Alors tu juges toute la journée jusqu'à rentrer à la maison, tu ne m'as rien dit aujourd'hui. Et même ça, ça devient des problèmes. Tu as oublié de souhaiter mon anniversaire. On attend toute la journée jusqu'à la dernière minute. C'était mon anniversaire, tu as oublié. C'était notre anniversaire de mariage, tu as oublié, voilà. Et des petites choses comme ça deviennent des sujets même de disputes. Est-ce que ça vaut la peine? Je le dis parce que c'est souvent plus les femmes qui sont attachées à des choses presque futiles. Ils donnent une importance à des détails. Je ne dis pas que ça ne doit pas l'être, mais ça ne doit pas nous emmener à des points, à des niveaux de dispute. Il faut mettre les choses à leur place. On peut exprimer les choses avec regret, mais non pas dans la colère, et d'en faire un sujet de dispute. Pour tourner le dos au moment où vous allez vous coucher. Que chacune soit soumise à son mari. Tu as élevé la voix, tu t'es énervé pour montrer à ton mari que moi aussi je peux tenir tête. Moi aussi je peux parler. Ton mari essaie de placer un mot, toi tu en places deux. Moi aussi je peux tenir debout. Après tu ne dors pas la nuit. Après tu as des palpitations. Après tu es irrité dans ton cœur. Après tu n'as pas d'appétit. L'homme quelquefois peut se mettre en colère et puis manger tranquillement. La femme est dérangée, n'a même plus des fois d'appétit à la cuisine, elle ne sert même pas directement dans la chambre. La colère ne produit pas la vie. Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu veut que nous puissions être dans la joie et dans la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Le monde veut que tu sois en paix en te justifiant. Fais-toi justice et les choses seront rétablies. Énerve-toi, montre qui tu es, et en créer des groupes féministes pour revendiquer des droits. Quels droits ? Le droit que nous avons, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est dans ce droit-là que nous serons heureux. Humainement parlant, lorsque nous entendons les paroles de la Bible, elles sont quelquefois difficiles à accepter. C'est pourquoi certains ont quitté le Seigneur après qu'il ait dit que celui qui ne me mange pas ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais quand les gens n'ont pas compris, le Seigneur a dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Lorsque Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, de se sacrifier pour sa femme, lorsque Dieu demande à la femme d'être soumise, comprenons que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Ce ne sont pas des paroles pour nous irriter, pour nous emmener dans la mort. Ce sont des paroles qui produisent la vie pour tous ceux qui comprennent la parole de Dieu. Celui qui a compris cela comprend qu'en réalité Dieu veut notre bien. Et il nous donne le mode d'emploi pour être heureux dans la famille. Il nous donne le mode d'emploi pour être heureux les uns avec les autres. Il nous donne le mode d'emploi pour lui être agréable. Comprenons que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Le monde te dira, ne te laisse pas écraser, défends-toi, fais quelque chose. Dieu dit, ne résiste pas aux méchants. Dieu dit, fais-moi confiance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Notre réussite se trouve dans le respect de la parole de Dieu. Et si Dieu nous dit que la colère n'est pas bonne, bien-aimés, nous pouvons lui faire confiance. Dieu sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Il nous a aimés pour que nous soyons heureux. Il nous a aimés pour que nous soyons heureux. Il nous donne ces conseils-là afin que nous puissions vivre selon le plan merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous. Apocalypse chapitre 12. Au verset 9. Le diable... Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le goût de la défaite emmène la colère. Le diable a très peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Dans Jean 10, il nous est dit qu'il ne vient que pour égorger, détruire, dérober. Le diable ne vient pas pour faire du bien, mais il vient pour faire le mal. Mais pour faire ce mal-là, il faut qu'il soit animé d'une grande colère, puisque la colère nous enlève tout sentiment d'amour. La colère nous enlève tout sentiment de pitié, tout sentiment de compassion. Lorsqu'on est dans la colère, le sentiment d'amour est effacé. Lorsqu'on est dans la colère, même des personnes qu'on a aimées autrefois, on a le sentiment de ne plus les aimer. Et Dieu nous dit que Satan est animé de cette colère pour venir détruire. Il dit « Malheur à vous, habitants de la terre, parce qu'il est animé d'une grande colère. » Nous sommes enfants de Dieu. La colère est la démonstration de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Comprenons bien aimé ce que je dis. Ce n'est pas le fait que tu t'es mis en colère là et que tu te repens, que tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible nous dit que dans 1 Jean 3, 9, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire ne demeure pas dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus pécher, mais ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas vivre dedans. Il ne peut pas accepter de rester dedans. Dès l'instant où il touche le péché, il se repent aussitôt. Il a ce sentiment de culpabilité qui le repousse à la repentance aussitôt. Mais il y a celui qui pêche et qui est à l'aise, qui le fait et qui se justifie. C'est de cela lorsque je parle quand je dis qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Le diable est animé d'une grande colère. Et cette colère, eh bien, c'est sa motivation pour détruire ce que Dieu a construit. La colère que tu as ne construira rien du tout. Elle ne construira rien du tout. La Bible nous montre à travers cet exemple-là que la colère a des conséquences destructrices, dévastatrices. La colère ne construit pas, mais la colère détruit. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, bien-aimé, à cause de la colère. Il a simplement contemplé de ses yeux, mais il n'y est pas entré. Parce que juste un instant, il a usé de colère. Renonçons à la colère, bien-aimés. La Bible dit dans Jean 3, 36, que celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible nous dit que ceux qui ne se repentiront pas, la coupe de la colère de Dieu se déversera sur eux. La Bible nous dit que Dieu attend et les jours seront terribles au jour de sa colère. Dieu use de patience, mais au jour de sa colère, les conséquences seront terribles. Le Seigneur, lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a vu tous les marchands, les vendeurs, il a tout saccagé. Il a renversé toutes les tables. Il a fouetté tous les vendeurs qui étaient là. Il était en colère. Il était en colère parce que la justice n'était pas respectée. Il était en colère parce que les hommes se sont levés contre lui. La colère de Dieu est justifiée. Au commencement, la terre était un vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Il a créé la végétation. Il a créé la lumière. Il a séparé la lumière des ténèbres. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu a créé toutes choses. C'est pourquoi lui seul a tous les droits. Lui seul a tous les droits. Nous sommes venus et nous avons trouvé les choses telles qu'elles. Nous n'avons aucun droit parce que nous sommes sur un territoire. Nous sommes dans un corps qui ne nous appartient pas. Dans Colossiens, il est écrit que tout a été créé pour Jésus et par Jésus. Tout est à lui. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons aucune revendication. La colère de Dieu est juste parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Il est juste parce que sa colère emmène un jugement qui est vrai. Et cette justice, il l'a manifestée en donnant son Fils unique à la croix. Dieu est en colère, mais c'est une colère qui est liée à son amour. Ce n'est pas une colère qui est liée à la haine, qui est liée à la cupidité, qui est liée à la jalousie, qui est liée au fait où notre orgueil a été touché. Dieu est juste, Dieu est amour. C'est pourquoi sa colère à lui est juste. Et la colère que Dieu tolère de nous, il nous explique que celui qui retire le bâton pour corriger son fils n'aime pas son fils. Mais il dit aussi que lorsque tu reprends ton fils, reprends-le, mais ne désire pas le faire mourir. Dieu accepte que l'on puisse manifester une sorte de colère, entre guillemets, pour manifester notre mécontentement dans le but d'emmener la personne à la vérité, dans le but de construire, dans le but de redresser. Et je crois que nous avons compris, bien aimé, que notre thème ne se référait pas à cette colère-là, mais à la colère qui détruit. Nous pouvons reprendre nos enfants. Nous pouvons quelquefois manifester, entre guillemets, une certaine colère pour redresser les choses selon la parole de Dieu. Une colère qui est liée à l'amour. Et quand la colère est liée à l'amour, bien aimé, quelques instants après, tout est oublié. Quelques instants après, tout est reconstruit. C'est pour emmener les personnes à changer selon la parole de Dieu. Et non pas pour défendre notre honneur. Non pas parce que nous avons été blessés. Non pas parce que nous avons été vexés. Je crois, bien aimé, que même si je n'ai pas été explicite là-dessus, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre pour nous aider bien à faire la part des choses, de manière à ce que le message ne soit pas reçu comme quoi on a le droit de s'énerver. Ce n'est pas ça, on n'a pas le droit de se mettre en colère. Comprenez cette différence-là, bien aimé, entre le fait d'éduquer nos enfants, de redresser certaines personnes pour les emmener à la parole, à la vérité. Faisons cette différence-là. Que Dieu nous aide, bien aimé, il y a peut-être encore beaucoup de choses à dire qui n'ont pas été dites ce matin, mais je crois que nous nous connaissons. Nous nous connaissons et je crois que dans sa fidélité, Dieu a parlé à chacun en particulier. À chacun en particulier parce que je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous sommes tous dans la chair, nous avons tous la chair, nul de nous n'a été régénéré dans sa chair. Nous avons le Saint-Esprit, mais notre chair est encore bien vivante et nous devons prendre garde, bien aimés, à ce que nous faisons. La Bible nous dit « ne donnons pas accès au diable ». Par la colère, bien aimé, nous donnons accès au diable. Par la colère, nous donnons en quelque sorte la permission au diable d'agir. Il y a des personnes, quand elles se mettent en colère après une personne, ça arrive que cette personne-là fasse un accident, que cette personne ait des problèmes. Il y a des gens, quand ils se mettent en colère, il y a comme des conséquences sur les personnes sur qui elles sont en colère. Bien aimé, la sorcellerie commence comme ça. Faisons attention. Et dans le passage que nous avons lu dans Éphésiens, il nous est dit aussi que le soleil ne se couche point sur la colère. Ne demeurons pas dans la colère, bien aimé. Mais au moment où elle est là, faisons ce qu'il faut en nous confiant dans le Seigneur pour résoudre le problème, pour chasser cette colère et la refuser. Refusons cette colère, elle peut venir indépendamment de nous, prions et refusons. Parlons-lui en face. Colère, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose, je refuse cette colère-là. Combattons avec les armes que nous avons bien aimées. Ne donnons pas accès au diable. Ne laissons pas le diable nous utiliser. Nous utiliser, bien-aimés, sous l'effet de la colère, nous pousser à faire des choses que nous allons regretter. Dieu nous a appelés à aimer, à nous aimer, à aimer les autres, bien-aimés. Or, l'amour n'est pas compatible avec la colère. Dieu seul maîtrise la colère, lui seul peut la manifester. Laissons-lui faire ce qu'il a à faire et faisons ce que lui nous demande de faire. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous venons nous recommander entre tes mains. Nous reconnaissons combien nous sommes faibles, Seigneur. Nous reconnaissons combien sans toi, nous ne sommes rien. Éternel Dieu de gloire, tu nous as appelés à être à l'image de Jésus-Christ, à l'image de ton Fils unique. Seigneur de gloire, nous voulons être justes. Nous voulons être dans l'amour, Seigneur. Nous voulons être dans l'unité. Nous voulons être dans la vérité. Et ce matin encore, tu nous as repris, tu nous as parlé, exhorté, Seigneur de gloire, non pas pour nous condamner, Seigneur, mais pour nous amener à changer. Pour nous amener à te ressembler, pour nous amener, Seigneur, à renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur de gloire, parce que tu nous aimes et nous voulons recevoir ta parole avec joie. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur de gloire, avec simplicité de cœur, avec humilité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à nous humilier, à nous laisser dépouiller, Seigneur de gloire, combien même nous pouvons avoir raison, Seigneur. Aide-nous à nous dépouiller, Seigneur de gloire, à ne pas répandre le mal par le mal, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, que la délivrance se trouve auprès de toi. La délivrance se trouve auprès de toi, Seigneur. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas lutter. Mais nous savons que toi, en nous, Seigneur de gloire, tu peux faire cette œuvre de nous libérer totalement de la colère, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, que dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Seigneur de gloire, oui, nous voulons être dans cette douceur. Nous voulons être dans la maîtrise, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que nous avons commis des fautes par excès de colère. Nous avons donné accès au diable, Seigneur de gloire. Nous avons été l'instrument du diable, Seigneur, parce que nous n'avons pas renoncé à la colère. Par notre propre force, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, mais nous venons ce matin, Seigneur de gloire, faire le choix de tout abandonner, Seigneur de gloire. De tout abandonner, Seigneur. C'est vrai, Seigneur de gloire, nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, nous croyons que par ta grâce, tu peux nous purifier encore ce matin. C'est toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur.